This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dakar. France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir à Dakar au Sénégal, le verdict est tombé pour Hissène Habré, l'ex-président tchadien reconnu coupable de crimes contre l'humanité et condamné cet après-midi à la prison à perpétuité. Nous serons également sur la base américaine de Guantanamo à Cuba où Khalid Sheikh Mohamed, l'un des cerveaux présumés des attentats du 11 septembre, est jugé à partir d'aujourd'hui. À 18h55, l'édito d'Arnaud Leparmentier sur la crise au Venezuela, pays au bord de l'implosion. Mais tout de suite, la France et la loi El Khomri, bras de fer, gouvernement, syndicat, vu par la presse internationale.
Michaël Thébault, un jour dans le monde.
Incapacité à réformer, imperméabilité au changement, un gouvernement mou, voire faible, face à des syndicats, au contraire, radicalisés. Les Français donnent toujours l'impression d'être en grève. Ils ont peur de perdre leurs privilèges, leurs garanties et leurs avantages acquis. Voilà quelques formules relevées dans El País, le New York Times ou le Guardian. Et vous l'avez compris, la presse étrangère n'est pas vraiment tendre avec nous, Français, ces dernières semaines. Eh bien, pour en parler, nous sommes ce soir avec quatre consoeurs et confrères étrangers. Bonsoir Sophie Péder, chef du bureau parisien du quotidien britannique The Economist.
Bonsoir.
À vos côtés, Thomaïs Papayohannou, correspondante à Paris de la télévision publique grecque ERT. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Axel Krause, confrère américain du Transatlantic Magazine.
Bonsoir.
Et en ligne également, Michaela Wiegel du Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, première question, peut-être à vous, Thomaïs Papayohannou. On connaît la douloureuse situation grecque, les réformes nombreuses, profondes, imposées au pays, cette crise qui n'en finit plus, et avec elle, tous les efforts demandés à une large majorité de la population. Est-ce que vous comprenez, du coup, que cette loi travail en France enflamme à ce point une partie du pays ?
Ah oui, et vous vous souvenez, il y avait la visite d'Alexis Tsipras ici au moment où la loi Khomri a été lancée au Parlement et il avait conseillé à M. Hollande de ne pas procéder à cette réforme parce qu'il regardait les dégâts qu'a créé en Grèce et c'est une erreur énorme d'appliquer cette loi néolibérale, comme il les a qualifiées, à un pays parce que finalement ce n'est pas la solution de la crise. Donc cette déclaration de Tsipras a fait la une de tous les médias le lendemain samedi matin et ça a pris de l'importance. Ceci dit, les Grecs comprennent la réaction des Français et ils ne sont pas dans le même mental que, par exemple, peut-être les Allemands ou les Britanniques ou autres peuples parce qu'ils ont justement, ils espèrent qu'un changement en Europe viendra, peut-être par les révolutionnaires français.
Alors justement, Britannique, Sophie Péder, en tant que correspondante à Paris de The Economist, quelle est votre lecture de ce bras de fer gouvernement-syndicat ?
Je pense que ce qui est intéressant, c'est surtout l'idée que c'est la gauche contre la gauche. C'est ça. Il me semble que c'est vraiment l'avenir de la gauche française qui est en jeu là, actuellement. Ce qui est très connu en France, c'est le bras de fer entre gauche et droite, et ça, ou syndicat gouvernement de droite. Mais c'est très nouveau, ça, de voir un gouvernement socialiste français rester très ferme avec une loi qui est, en quelque sorte, qui contient des mesures libérales. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, on va voir à quel moment, à quel point la France est vraiment prête pour ce genre de mesures. Nous, on considère que c'est important de flexibiliser le marché de travail français parce que vous avez un taux de chômage à 10%, c'est deux fois le taux de chômage au Royaume-Uni. Je propose pas, personne propose d'imposer sur la France, un marché de travail comme on a au Royaume-Uni, mais quand même, il y a des efforts à faire en France et je pense que ça serait dans l'intérêt des jeunes français d'avoir un marché de travail un peu plus fluide. Donc, est-ce que c'est le gouvernement qui est en phase avec la population française silencieuse ? Je ne parle pas évidemment des syndicats, mais qui représente en quelque sorte une minorité de la population ou est-ce que la France est majoritairement derrière en réalité ce qui résiste à cette réforme. Ça, c'est la question.
Alors, on va s'arrêter, hein, évidemment, sur chacune de vos lectures, mais on continue ce tour de table. Au téléphone, cette fois, point de vue allemand, Michaela Wiegel du Frankfurter Allgemeine Zeitung. On connaît le poids des syndicats en Allemagne, notamment le tout-puissant, hein, IG Metall, taux de syndicalisation beaucoup plus fort qu'en France. Comment se fait-il qu'on n'atteigne pas chez vous ce degré de conflit ?
Alors tout d'abord, je partage cette idée de Sophie Péder qu'il s'agit d'une clarification actuellement au sein même de la gauche Ce qui est vraiment dommage, c'est que ça arrive très tard et que ça arrive après une campagne présidentielle où on avait l'impression qu'on allait avoir une gauche unie qui allait effectivement de l'extrême gauche jusqu'au centre gauche. Alors sur le poids des syndicats, je pense il faut se rappeler que en Allemagne même, quand Schröder a présenté son agenda 2010, je fais pas là la comparaison parce que c'est une réforme beaucoup plus profonde que celle de la loi El Khomri, mais il y a eu des protestations, il y a eu des syndicats vent debout, donc on oublie un peu vite que même Schröder a joué sa réélection sur ces réformes, il n'a pas été réélu. Donc il y a eu quand même des protestations. Mais il est vrai que les syndicats étant forts en Allemagne, il y a véritablement, une fois qu'une réforme est passée, quelque chose comme un compromis qui est accepté par tout le monde. Et c'est exactement ça qui fait défaut. On a bien vu, la CFDT accepte cette réforme, mais le gouvernement, à mon avis, a sous-estimé la réaction de la CGT et on est entré un peu par surprise quand même, parce qu'on avait l'impression au départ que les protestations allaient se calmer, Nuit debout était un peu essoufflée, et d'un coup on a eu ce bras de fer très personnifié entre Manuel Valls et le leader de la CGT, Martinez, et ça, je pense, ça c'est une caractéristique très française.
On passe au point de vue américain. Axel Krauss, Transatlantic Magazine. Quelle est votre lecture, à vous, en tant que journaliste américain, de ce conflit?
D'abord, j'ai beaucoup de problèmes avec certains mots qui étaient utilisés pour décrire la situation en France actuellement. On a parlé de chaos, on a parlé de bordel, fiasco, crise de confiance, etc. Et dans un sens, c'est tout ça en même temps. Ça veut dire que la situation est, comme mes confrères viennent de décrire, une sorte de conflit, mais c'est un conflit dans un sens entre deux entités qui sont très affaiblies. D'une part, le gouvernement Valls Hollande, et en même temps la CGT par rapport à la CFTT qui est plutôt pour. En même temps, je crois que le New York Times ce week-end a bien résumé la situation, avec une photo qui montre la police, la confrontation, les feux, les choses qui brûlent, etc. Mais les titres expliquent, à mon avis, ce qui se passe réellement pour l'instant. « More bark than bite ». Ça veut dire plus de peur et de paroles que de mal. Ça veut dire l'aboiement, bark than bite.
C'est-à-dire et dans ce même article, Axel Krauss, le New York Times fustige le combat d'arrière-garde des syndicats. On nous dit finalement la CGT en l'occurrence.
La CGT en l'occurrence. Et aussi, une autre chose qui m'a beaucoup frappé, parce que j'étais ici comme jeune correspondant à l'époque, on a évoqué plusieurs fois dans les papiers américains, anglais et ailleurs, mai 68, les événements. Deux réflexions, parce que j'étais là comme correspondant à l'époque, ça n'a rien à voir. En 68, j'ai vu la France, vraiment j'étais sur les terrains tous les jours, pas les étudiants à la rive gauche, mais je parle des usines occupées, 3, 4, 5 millions d'ouvriers français en grève. La France était vraiment, vraiment paralysée. Qui n'est pas le cas aujourd'hui par rapport à les premiers réflexes, en fait, chaos, bordel, etc., qu'on a entendu sur les événements aujourd'hui. Non, en 68, il y avait véritablement une paralysie que des gens évoquent aujourd'hui. Et deuxièmement, beaucoup plus important, il y avait un premier ministre qui s'appelait Georges Pompidou. La première chose qu'il a fait en mai 68, c'est d'engager des négociations avec des syndicats, et les mêmes, le CGT, le CFTT, la FO, etc. Et ça, c'est un grand chose qui m'a beaucoup frappé. Et deuxièmement, parce que je prépare un papier actuellement là-dessus et je travaille là-dessus, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses en France qui marchent. Le BPI, la Banque publique d'investissement, vient d'avoir une énorme manifestation la semaine dernière que j'ai couvert, où j'ai vu des jeunes entrepreneurs français qui disaient non, la crise c'est pas une crise. Il y a une vraie confrontation, c'est vrai, mais ça n'empêche pas à nous de travailler.
Thomaïs Papayohannou, quand on lit la presse internationale, on a un peu le sentiment que la plupart de nos confrères nous disent tout ça pour ça. Vous avez ce sentiment-là aussi?
Oui, exactement. Enfin, il a corrigé 4 fois le texte jusqu'à maintenant, mais c'est ce qui
et ça peut encore être corrigé.
Exactement, il a laissé des marges. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans la politique, on sait qu'à la dernière année de ton mandat, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas des lois si importantes que celles-ci, parce que tout peut déraper à n'importe quel moment. Tu les fais au début ou au milieu, mais pas à la fin. Et ça, c'est une énorme erreur politique. Il n'y a pas photo. Et pour la presse internationale, plutôt, moi, je concentrerai à la presse européenne. C'est trop tard, cette loi. Voyez, parce que les dégâts en Europe sont immenses par rapport à la crise de 2009-2010. Et ils ont tellement mal géré la situation. Ils ont imposé des politiques néolibérales au moment où il fallait pas trancher si durement dans les problèmes. Et les résultats ne sont pas là. Aucun pays qui s'est imposé des lois néolibérales, et coupé comme ça, a imposé des lois qui sont plus ou moins pareilles, actuellement ne marche pas. Aucun pays ne marche. Donc, c'est anticyclique la politique qu'il faut mener actuellement pour sortir de la crise et ensuite faire des réformes. Pas maintenant, c'est après. Une fois que la croissance arrive, c'est là où il faut rester discipliné et faire des réformes. Et c'est surtout ça que la presse européenne ne comprend pas exactement.
Alors, dans la presse britannique, là, je me tourne vers vous, Sophie Péder. On retrouve justement très très souvent, depuis 3-4 semaines, cette question de timing. Nombreux confrères, consoeurs se demandent, et ne comprennent pas d'ailleurs, pourquoi François Hollande, le gouvernement Hollande, a lancé une telle réforme aussi près d'échéances cruciales telles que la présidentielle.
Je ne pense pas que c'est une question de chronologie. Ça me paraît complètement légitime pour un gouvernement de lancer une réforme dans année 5 de leur mandat. C'est pas ça. Pour moi, le problème, c'est la légitimité du discours réformiste que tient actuellement le gouvernement de Manuel Valls et François Hollande récemment. Ce n'est pas du tout le discours que tenait le candidat Hollande en 2012. Et je pense que là, vraiment, on touche le cœur du problème. Et ce matin, j'étais à une raffinerie en grève à Grandpuits, et c'est exactement ça que dit le CGT, qu'on n'a pas élu un gouvernement libéral, un gouvernement de patrons. C'est leur caricature de la situation, mais d'une certaine façon, ils ont raison de dire que ce n'est pas ça qui était en jeu en 2012. Et je pense que là, le regret qu'on peut avoir, c'est que le candidat Hollande n'a pas explicité le problème, l'état de l'économie française à l'époque et les mesures qu'il allait de nécessité devoir prendre. Donc c'est pas chronologie, pour moi c'est une question d'avoir le mandat clair avant une élection, pas de faire une élection avec un discours et ensuite modifier ça avec un peu de retard et une absence de légitimité après.
Mmh. Axel Kraus, pas une histoire de timing comme le dit Sophie Péder, mais effectivement finalement on a menti.
Non, c'est pas une question de timing, c'est une question de communication. Le président Hollande a une mauvaise habitude, il ne communique pas très bien. Il n'explique pas aux gens un changement que beaucoup de gens que j'ai interrogés, pas seulement des étudiants, parce que eux, ils ont d'autres problèmes. C'est pourquoi j'ai dit qu'un peu comme mai 68, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de colère dans le pays pour des gens qui disent « ça va pas ». Leur avenir, l'inquiétude, etc., dans cette loi qui, selon beaucoup d'experts, beaucoup d'économistes, beaucoup d'investisseurs qui regardent la France pour investir, trouvent est très positive. Il y a des choses qui sont absolument indispensables, ça veut dire le droit de licencier pour faciliter l'embauche. Et justement, ça tombe mal dans un sens pour le président Hollande et son gouvernement, qu'actuellement, il avait raison quand il a dit « ça va mieux ». Il y a des signes de reprise économique, de consommation, de confiance chez des entrepreneurs, comme j'ai vu avec la Banque publique d'investissement à cet événement, où j'ai vu des start-ups et des speed dating, vous savez, entre les entrepreneurs et des Chinois parlant avec des jeunes entrepreneurs que j'ai vus pendant cette manifestation. Et donc, il y a une situation dans un sens contradictoire, mais la CGT, en même temps, pour des raisons qu'on a déjà évoquées ici, leurs faiblesses, leurs difficultés, eux aussi communiquent très mal, mais il y a des choses très positives dans cette loi.
On repart au téléphone. Michaela Wiegel, vu d'Allemagne, est-ce qu'on met en avant aussi ce problème de communication du gouvernement français ?
Oui, alors effectivement, on a l'impression qu'il y a deux calendriers qui se heurtent un petit peu, parce qu'on a d'un côté la Commission européenne, parce qu'il faut pas oublier que la loi El Khomri, c'est quand même une promesse faite pour satisfaire justement la demande de réforme de Bruxelles. Et je pense que François Hollande avait complètement sous-estimé en demandant toujours le report de remplir les différentes exigences de la Commission européenne, que du coup cette loi-là arriverait au plus mauvais moment, parce qu'effectivement même s'il est légitime de réformer jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, comme il le dit d'ailleurs, on peut le faire uniquement si ça correspond aussi à quelque chose sur lequel on a été élu, et c'est vraiment pas le cas de François Hollande. On a un peu vite oublié que, dans un premier temps, ils avaient même oublié d'associer la CFDT. Laurent Berger s'était offusqué d'avoir appris la première monture de la loi El Khomri par voie de presse. Et donc on voit à quel point on s'est un peu précipité, et je crois cette confusion des calendriers est pour partie responsable du rejet dont elle fait objet. Et effectivement, ça a été dit, il y a un aspect très important, c'est que jusqu'à maintenant, en fin de mandat, aucun président n'a réussi à imposer une réforme d'envergure. On se souvient du CPE de Dominique de Villepin, qui lui avait des très bons chiffres sur le chômage à l'époque. Ben, il n'a pas réussi, et ça a cassé complètement ses ambitions présidentielles.
Et la conjoncture était a fortiori tout autre. Thomas, Papayohannou.
En fait, ce qui est très choquant pour la Grèce, c'est que la France a essayé de passer cette loi comme la loi Macron avec le 49-3. Et ça, en Grèce, on est en train de supprimer complètement le Parlement. On est en train de passer, la dernière fois, c'était dimanche dernier, on a passé 1700 pages de législation en une seule nuit, et un vote comme ça, très 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 rapide. Personne n'a lu les textes, personne ne sait ce qu'on vient de voter, et surtout qu'on a fait l'emploi du 49-3 en Grèce, c'est presque la normalité maintenant et pas l'exception. Donc, et d'ailleurs, Manuel Valls, sur BFM, a fait l'éloge de la Grèce qu'elle passe 1700 pages en une seule nuit sans que personne. Il dit, voilà comment ça va, rapide, allez, il faut faire rapidement. Ça, cette conception de changer une société, de réformer une société de cette façon-là, déjà, ça pose d'énormes problèmes démocratiques. Et surtout, c'est le 49-3 à deux reprises dans un mandat, et d'ailleurs dès le début, Madame Khomri a donné une interview dans Le Parisien, et dès le premier jour en disant le 49-3 on va l'utiliser, et finalement il l'a utilisé. Alors à quoi ça sert le Parlement, à quoi ça sert les syndicats, et à quoi ça sert les gens?
Sophie Péder, la Britannique que vous êtes, juge comment cet usage du 49-3?
Alors, je pense que par le passé, vous avez vu, il y a des premiers ministres qui ont utilisé plusieurs fois pendant les parlements.
Y compris à gauche, voilà. Michel Rocard, une vingtaine de fois.
Par exemple, donc c'est totalement dans la loi française de le faire. La question, c'est politique. C'est pas une question de est-ce que c'est complètement constitutionnel et légal. La question est politique. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que tout dépend de la légitimité du gouvernement de faire ce qu'il doit faire. C'est extrêmement difficile de faire ce que Manuel Valls tente de faire, c'est-à-dire de modifier le logiciel d'un parti de gauche progressiste en pouvoir, alors qu'il n'avait pas été élu du tout directement d'être Premier ministre, et quand il était candidat aux primaires socialistes, il a eu ses 5%. Donc on voit à quel point c'est difficile pour lui. C'est pas comme je fais souvent le comparaison avec Tony Blair dans les années 90, le chef du Parti travailliste au Royaume-Uni, qui a modifié justement la position de la gauche pendant 3 années de travail en opposition, et ensuite a été élu avec un mandat très clair de centre-gauche. Et c'est beaucoup beaucoup plus facile ensuite de gouverner une fois que vous avez fait ça en opposition et vous êtes élu avec un mandat clair.
Axel Kraus, très vite.
Je crois que le problème numéro un actuellement, c'est que faire ? What next? Qu'est-ce qu'on va faire avec les perspectives des grèves qui sont annoncées pour cette semaine et un vrai aggravement de la situation? Et ma conclusion en tant qu'observateur, journaliste, avec cet regard et dans la mémoire des événements de mai 68, le président et son premier ministre ont peut-être intérêt de regarder ce que Georges Pompidou a fait. Ça veut dire d'ouvrir des vraies négociations et les résultats, n'est-ce pas, même contestés par la CGT à l'époque parce que ça a pris du temps pour arriver à des accords de Grenelle qui ont finalement fait beaucoup de choses pour la classe ouvrière, les droits des familiaux, etc. Et de ne pas rester dans cette situation de conflit qui va, à mon avis, peut-être dégénérer dans une situation qui ressemble beaucoup plus à cette mai 68 qui était à l'époque catastrophique.
Écoutez, votre éclairage est précieux à tous les quatre. Malheureusement, le temps file. Merci infiniment, Thomaïs Papayohannou. Correspondante à Paris, la télépublique grecque ERT, entre autres, Sophie Péder, chef du bureau parisien de The Economist, Michaela Wiegel, au téléphone du Frankfurter Allgemeine Zeitung, et Axel Kraus, donc l'américain du Transatlantic Magazine.
BBC's Brian Hanrahan witnessed.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Israelis running for shelter in Tel Aviv and Jerusalem.
Los que sí están llegando ya en masa al Río de Janeiro, al Maracaná.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde. Bonsoir Olivier Poujade.
Bonsoir Michael.
Alors c'est une grande première, Olivier, la condamnation pour crime contre l'humanité de l'ancien chef d'État tchadien Hissène Habré. Verdict prononcé cet après-midi au Sénégal.
Oui, la grande première, Michael, c'est que jamais un ancien chef d'État n'avait été condamné par le tribunal d'un autre pays. Et cet après-midi, après 10 mois de procès, le tribunal spécial de Dakar a reconnu Hissène Habré coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. À 73 ans, l'ancien homme fort du Tchad, de 82 à 90, vient d'être condamné à la réclusion à perpétuité. Bonsoir Amélie Tulé.
Bonsoir Olivier.
Alors vous étiez cet après-midi au palais de justice de Dakar. Comment ce jugement a-t-il été accueilli ?
Dans un grand silence, Olivier, un grand silence dans une salle d'audience pleine. Et quelques instants après, les victimes ont laissé éclater leur joie. Voilà, vous entendez Olivier, des cris, des larmes aussi. 25 années que les survivants et les proches des victimes se battent pour obtenir justice. Souleymane Gangeng est l'une des figures de ce combat.
Ce sentiment de joie, mais je ne sais comment l'exprimer. Et cela servira beaucoup, beaucoup de leçons. Ça servira beaucoup, ça donnera le courage à d'autres victimes à ne plus garder silence.
Souleymane Gangeng a connu les prisons du régime Habré, accusé d'être un opposant, tout comme Clément Abaifouta, qui a passé, lui, 4 années en détention.
Pendant 4 ans, j'ai vu l'horreur, l'humiliation, la chosification. Et aujourd'hui, je me sens digne d'être homme maintenant.
Ce matin, Olivier, le juge a décrit le règne de Hissène Habré comme 8 années de terreur au Tchad. Arrestation, disparition, exécution sommaire. Un régime répressif, méthodique, avec la torture érigée comme mode de gouvernance. Pour les chambres africaines extraordinaires, il n'y a aucun doute sur la responsabilité de Hissène Habré dans ses crimes, car il contrôlait directement les instruments de cette répression, comme la DDS, la police politique. Il faut retenir aussi qu'aujourd'hui, Hissène Habré a été déclaré personnellement coupable d'avoir violé une plaignante à 4 reprises.
Et Hissène Habré qui avait été conduit de force, hein, Amélie, devant ses juges l'an dernier en se débattant et en poussant des cris, c'était au tout début de son procès. Comment a-t-il réagi à l'énoncé de ce verdict ?
Eh bien, comme pendant toutes les audiences depuis septembre, il n'a pas bougé, le visage enserré dans un grand turban blanc, caché derrière des lunettes de soleil. Pas une réaction donc à l'énoncé du verdict, mais au moment de quitter la salle d'audience, comme à chaque fois, il s'est tourné vers ses partisans qui l'applaudissaient, les mains jointes au-dessus de sa tête, se donnant des airs de vainqueur. Ce comportement qu'il a adopté pendant tout son procès, eh bien ce matin, le juge l'a qualifié de mépris insultant à l'égard de la cour.
Alors, on parle aujourd'hui de procès historique. En quoi est-il historique ?
Comme vous l'avez dit, c'est la première fois en Afrique qu'un chef d'État est jugé par le tribunal d'un autre État. Cela a été rendu possible par la compétence universelle, un principe de droit international qui permet de poursuivre l'auteur de crimes, quelle que soit sa nationalité ou celle de ses victimes. Je vous le rappelle, Hissène Habré s'était réfugié au Sénégal après avoir été renversé par Idriss Déby. Hissène Habré a vécu ainsi plus de 20 ans, un exil tranquille à Dakar. C'était jusqu'à ce procès. Pour Reed Brody de Human Rights Watch, qui suit cette affaire depuis près de 20 ans, c'est un message fort qui est envoyé à toutes les victimes de dictatures dans le monde.
Aujourd'hui, ça a gravé dans l'histoire comme le jour où une groupe déterminée de survivants a réussi à traduire en justice leur dictateur. Nous voulons que d'autres survivants, d'autres victimes regardent l'exemple ici et voient qu'il est possible de trouver justice, même quand cela paraît très très difficile.
Et comme dit Reed Brody aujourd'hui, Olivier, 25 années après, les anciennes victimes sont plus grandes que Hissène Habré.
Correspondance d'Amélie Tulé depuis Dakar. On précise que les avocats d'Hissène Habré disposent de 2 semaines pour faire appel, des avocats commis d'office à qui il n'a jamais adressé la parole.
Et à 18h41, direction Cuba, Olivier, ou plus précisément le centre de détention militaire de Guantanamo.
À Guantanamo débute aujourd'hui, Michael, le procès de l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre 2001, Khalid Sheikh Mohamed, détenu dans cette prison qui reste dans le collimateur de nombreuses associations de défense des droits de l'homme et que cherche à fermer Barack Obama contre l'avis du Congrès américain. Bonsoir Élise Delève.
Bonsoir.
Vous faites partie des rares journalistes à avoir pu pénétrer dans l'enceinte de cette prison ultra sécurisée, sous l'œil, disons, vigilant des officiers de l'armée américaine. Racontez-nous.
Oui, tout est contrôlé, surveillé, observé à Guantanamo. Les 80 prisonniers qui restent, évidemment, et les journalistes, 10 sont autorisés à venir tous les mois. Je suis entouré de confrères américains. On nous amène en minibus d'un endroit à l'autre.
Dès que vous sortez du bus, vous voyez ce que vous pouvez photographier ou non. Pas les portes, pas les miradors, pas les gens et pas les sas de sécurité.
Premier stop dans un des camps où il n'y a aujourd'hui plus de prisonniers. Je sors mon micro pour raconter.
Avec le lever du soleil et les barbelés, c'est un spectacle assez surréaliste.
À la vue du micro, un militaire chargé de la communication vient me demander si tout va bien. Une surveillance avec le sourire. Les militaires, qui cultivent un côté sympathique avec la presse, me laissent même enregistrer l'hymne américain diffusé tous les matins par un gigantesque haut-parleur.
Cette sympathique visite, elle se poursuit direction la librairie de Guantanamo.
C'est l'endroit où 35 000 livres, DVD, jeux vidéo sont stockés. Les journaux d'Arabie Saoudite et du Yémen sont distribués. La majorité des prisonniers viennent de ces pays. Les articles sont d'abord relus et censurés. Approuvés, préfère l'armée, le responsable de la librairie de Guantanamo.
On cherche des contenus avec des messages positifs, avec de la morale, des valeurs ou des sujets qui stimulent, comme la science, l'histoire, la politique. On enlève tout ce qui montre la violence, la nudité, la sexualité, tout ce qui a rapport à l'armée ou aux idéologies extrémistes.
Après la stimulation mentale, comme dit l'armée américaine, direction le centre médical de Guantanamo, toujours accompagné de très près, dans une chaleur écrasante, entouré de moustiques, on nous fait entrer dans une pièce où l'on voit une chaise, des sangles et 3 petites boîtes de conserve. C'est ici que les prisonniers qui font une grève de la faim sont nourris par une perfusion dans le nez. 5% des prisonniers ont cessé de manger selon l'administration de Guantanamo.
Alors justement, est-ce que vous avez pu les approcher, les rencontrer, ces prisonniers, Élise ?
On les a vus après la visite d'une cellule mise en scène pour les photos. On est entré dans un couloir tout noir. Cet officier explique qu'on peut parler, mais doucement, qu'on peut prendre des photos, mais sans flash. À travers 2 portes, on voit les détenus assis au centre de leur pièce commune. Ils ne peuvent pas nous voir. La scène est assez gênante. Certains lisent sur un canapé, d'autres mangent ou regardent la télé.
Les détenus vivent la plupart du temps dans cet espace commun. Ils peuvent y venir 22 heures par jour. Ils mangent ensemble, ils s'assoient à table un peu comme une famille et ils prient ensemble.
Il reste encore 80 détenus à Guantanamo, habillés en beige. La couleur orange a été abandonnée. Aujourd'hui, elle est uniquement utilisée pour les prisonniers qui sont indisciplinés.
Cette prison, Guantanamo, Barack Obama a promis de la fermer avant de quitter la Maison Blanche, avant la fin de l'année. Donc, est-ce qu'il pourra tenir cette promesse ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a du mouvement. Les transferts de prisonniers vers d'autres pays s'accélèrent. 147 ont eu lieu sous la présidence Obama. L'amiral Peter Clark est chargé de les coordonner.
Nous soutenons totalement la décision du président de fermer la prison de Guantanamo. Tant que le processus de transfert a lieu, les prisonniers ont de l'espoir et l'atmosphère est donc calme. Mais si les transferts s'arrêtent et que les prisonniers comprennent qu'ils seront là à jamais, il faut s'attendre à un changement de comportement et on doit être préparé.
Se préparer, c'est notamment avoir plus de 1000 militaires sur la base de Guantanamo. Le problème, c'est la vingtaine de prisonniers jugés trop dangereux pour être déplacés, notamment ceux du 11 septembre. Pour Carole Rosenberg, spécialiste de Guantanamo, qui a participé à la visite, Obama ne tiendra pas sa promesse.
La seule façon pour Obama de fermer la prison, c'est d'obtenir l'accord du Congrès de lever l'interdiction de transférer les détenus aux États-Unis. Sinon, alors il doit défier le Congrès et même l'ignorer. Je ne pense pas que cela arrive avant qu'il quitte ses fonctions, donc je pense que le nombre de prisonniers va diminuer, mais la prison ne fermera pas avant qu'Obama parte.
Fin de la visite, toutes les photos et vidéos sont vérifiées par l'armée, celles qui ne plaisent pas sont effacées. Trois des miennes ont été, elles montraient d'assez loin des serrures.
Visite sous haute surveillance, on l'a bien compris, de la prison militaire de Guantanamo, signée Élise Delève. Merci à vous Élise.
Merci. Et Olivier, on est à moins d'un mois du référendum en Grande-Bretagne sur une éventuelle sortie de l'Union européenne.
Plus que 24 jours avant ce choix cornélien, Brexit or not Brexit, les partisans du maintien semblent tenir la corde aujourd'hui, mais plus de 10%, Michael, des Britanniques n'ont pas encore fait leur choix. Le plus célèbre d'entre eux se nomme Paul McCartney. Tous les gens à qui j'en parle passent d'un extrême à l'autre, indique aujourd'hui l'ancien membre des Beatles au quotidien Le Parisien. Je suis comme eux, je n'ai pas encore tranché, McCartney et ses amis depuis toujours, très partagés. Alors si la présence de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne ne l'est peut-être pas, Paul McCartney lui semble éternel. Le plus jeune de ses fans aurait, paraît-il, à peine 6 ans et demi, Michael, et ne devrait pas manquer le concert de l'ancien Beatles ce soir à Paris-Bercy.
Ah, on y serait bien allé. Goodbye, Olivier Poujade. One, two, get down. I announce my candidacy for president of the United States. Don't you someday want to see a woman president of the United States of America?
I believe in you. Un jour dans le monde, sur France Inter.
Et à 18h47, comme chaque lundi, on traverse l'Atlantique. Coup d'œil sur la campagne présidentielle américaine. Bonsoir Frédéric Carbone en direct de Washington.
Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous.
Alors, une semaine de la primaire en Californie. Eh bien, côté démocrate, ce n'est pas tout rose pour Hillary Clinton, Frédéric, avec un Bernie Sanders qui continue de mettre la pression.
Absolument, c'est la ruée vers l'ouest pour Bernie Sanders qui a passé quasiment tout le mois de mai en Californie. Alors, il ne trouvera pas là-bas la médaille d'or de la primaire démocrate. Mathématiquement, Hillary Clinton conservera son avance et aura même la majorité absolue de délégués nécessaires à l'investiture. Mais la Californie, c'est la dernière étape, le plus grand État américain, une terre 100% démocrate. Et si Sanders l'emporte là-bas mardi prochain, il sera en position de force pour négocier lors de la convention. Son intention, en tout cas, c'est de peser sur tout le programme, l'avenir du Parti démocrate et le choix des personnes clés de la campagne. Le voilà, par exemple, qui donne son avis sur le profil du vice-président si Hillary Clinton est bien candidate.
Si je ne suis pas désigné, j'espère que le candidat vice-président ne sera pas issu de Wall Street et sera quelqu'un qui se sera battu tout le temps contre la finance, contre les grandes compagnies pharmaceutiques et pour un gouvernement qui travaille pour nous tous et pas seulement pour les 1% les plus riches.
Répondrez-vous favorablement si Hillary Clinton vous propose le poste?
À l'heure qu'il est, je ne pense qu'à remporter la primaire démocrate. Pour ce qui arrivera après, on verra bien.
Alors vous notez qu'il n'exclut pas l'hypothèse, ce qui veut dire que les deux prétendants ne sont pas incompatibles. Il faut aussi remarquer qu'une personne colle parfaitement à sa définition. Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts, figure du camp progressiste chez les démocrates, une des rares à ne pas avoir choisi encore entre Hillary Clinton et Bernie Sanders, une des plus virulentes et convaincantes anti-Trump. Qu'elle soit ou non la candidate vice-présidente, ce sera, Michael, une personnalité essentielle dans les semaines à venir.
Bon, et côté républicain maintenant, tout ne va pas forcément bien non plus pour Donald Trump, qui peine toujours, Frédéric, à se présidentialiser.
En tout cas, contrairement à ce que certains prédisaient, nous n'avons toujours pas un nouveau Donald Trump. Il est depuis quelques jours sûr d'être le candidat républicain, mais il continue à s'en prendre à ceux qui l'ont critiqué, connu ou pas d'ailleurs, et à attaquer des responsables républicains qui tardent à le rejoindre. Écoutez-le en meeting au Nouveau-Mexique dénoncer la gouverneure de l'État, une républicaine, une femme, une hispanique, peu importe qu'il en ait besoin en novembre du vote de toutes ces catégories.
Depuis l'an 2000, le nombre de personnes dépendant des programmes sociaux a triplé au Nouveau-Mexique. C'est à vous de dire au gouverneur de faire un meilleur travail. Elle ne fait pas le job.
Alors Trump, toujours outrancier ou plus présidentiel, en fait c'est un débat vif dans son entourage, une sorte de querelle canal historique, canal habituel, ceux qui étaient là dès le début et qui ne veulent surtout pas changer une formule qui a permis de gagner les primaires, et les autres venus plus récemment, républicains plus classiques, qui sont aussi montés dans le train Trump pour essayer d'en contrôler la progression. Un de ses responsables a d'ailleurs été évincé brutalement la semaine dernière, et le chef du clan des historiques, Corey Lewandowski, prévient, en est très bien en famille entre nous.
Ce dont vous avez besoin, c'est d'une équipe efficace qui s'assure que les choses sont faites. Nous n'avons pas besoin de grossir et d'avoir une équipe de campagne de 700 personnes comme chez Clinton, c'est ridicule. Nous sommes très bien comme nous sommes. Avec nos succès, nous prouvons qu'une petite équipe peut être efficace. Et Donald Trump fera pareil avec le gouvernement s'il a l'honneur d'être élu président.
Alors vous voyez l'ambiance à Trumpland, il paraît que Donald Trump candidat fait pareil que Donald Trump chef d'entreprise. Selon la presse américaine, il laisse son entourage s'écharper et après il décide seul quelle va être sa position.
Et on voit bien l'ambiance, et à cela s'ajoute en plus, Frédéric, un troisième homme.
Absolument. Alors pas le fantomatique autre républicain que l'on n'a toujours pas vu et que l'on ne verra sans doute pas, mais le candidat du parti libertarien, petite formation régulièrement présente dans la course à la Maison-Blanche, très marginal, mais qui cette année espère bénéficier du rejet spectaculaire des deux personnalités en compétition, que ce soit Donald Trump ou Hillary Clinton. Gary Johnson a donc été investi hier, candidat libertarien, et cet ancien gouverneur républicain lorgne clairement du côté des électeurs potentiels de Donald Trump.
Ce que je sais, c'est que la moitié des républicains ne sont pas sur la ligne de Donald Trump. Moi, je leur dis, nous sommes pour un gouvernement réduit. C'est le sujet le plus important. C'est une question de liberté. Si vous n'avez pas à redouter un gouvernement fort, vous vous sentez libre. Sinon, c'est la tyrannie. Et c'est ce qui se passerait avec Donald Trump.
Alors, pour promouvoir ce programme à base de moins d'État, d'ultralibéralisme économique, de baisse des impôts et de libéralisme aussi sur les questions de société, mariage gay ou marijuana en vente libre par exemple, il faut que ce parti ait une tribune. L'équation est simple, si les sondages lui donnent plus de 15% des intentions de vote, Gary Johnson aura sa place dans les débats télévisés à l'automne, sinon il prêchera un peu dans le désert. Hillary Clinton doit en tout cas se souvenir que son mari en 1992 avait vu sa victoire facilitée par la présence d'un troisième homme, Ross Perot en l'occurrence, qui avait beaucoup nuit à George Bush.
Et oui, et pour finir, l'info inutile du jour, Frédéric, une sorte de nouvelle révélation signée Trump.
Ouais, révélation faite en Californie récemment. Vous savez que pendant un an, il y a eu de fortes restrictions d'eau à cause d'une dramatique sécheresse. Sécheresse, mon œil, dit Donald Trump. There is no drought. They turn the water out into the ocean. Il n'y a pas de sécheresse, ils ont juste renvoyé l'eau dans l'océan. Suffisait d'y penser, des propos arrangés dans l'armoire déjà très fournie de la négation du réchauffement climatique et de ses conséquences. En l'occurrence, Donald Trump est parfaitement dans la ligne du Parti républicain.
Ah, ça on a bien compris. Frédéric Carbone en direct de Washington. Merci beaucoup. Dans quelques instants, l'édito d'Arnaud Leparmentier du journal Le Monde. Mais d'abord, un peu de Janis Joplin.
If you ever
court mais bon, Cry Baby, Janis Joplin.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
Et à 18h55, c'est l'heure de l'édito d'Arnaud Le Parmentier du journal Le Monde. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Michael.
Alors gros plan ce soir sur la crise vénézuélienne.
Oui, nous avons l'impeachment en voie d'achèvement d'Dilma Rousseff au Brésil. Aurons-nous une procédure semblable au Venezuela pour Nicolas Maduro, le pâle successeur d'Hugo Chavez, décédé en 2013 ? L'opposition, vous le savez, a gagné haut la main les législatives en décembre 2015. Elle veut organiser un référendum révocatoire contre le président élu démocratiquement jusqu'en 2019. La majorité de la population le souhaiterait, mais le camp Maduro, qui possède l'essentiel des institutions, y oppose une fin de non-recevoir et a proclamé l'état d'urgence. Bien malin qui prédira l'issue de la crise. En revanche, on peut déjà tirer les leçons du socialisme à la sauce bolivarienne. Référence pompeuse à Simon Bolivar, le père de l'émancipation de l'Amérique du Sud au 19e siècle. L'éditorial du Monde ce soir donne une réponse en forme de devinette. Je vous la donne. Combien de temps faut-il pour réduire à la misère un des pays les plus riches d'Amérique latine? Réponse, moins de 20 ans. Au bout de 17 ans de révolution chaviste, le Venezuela est au bord de l'implosion sociale et politique. Fin de citation.
Et des exemples, Arnaud?
Coupure d'électricité et d'eau sur le lot quotidien de la population. Les supermarchés manquent de tout, les pharmacies aussi. Les files d'attente se forment vers 2h du matin dans la capitale. Pillages et émeutes sont quotidiennes. Notre envoyé spécial, Marie Delcas, nous raconte qu'il y a eu 170 pillages depuis le début de l'année. Certains se organisé par les barraqueros, petits mafieux qui revendent au marché noir des biens provenant des magasins d'État. Le Venezuela est hors guerre dans les 5 pays les plus violents du monde. 18 000 morts en 2015, soit 58 pour 100 000 habitants. La moyenne mondiale, c'est pas 58, c'est 9, et celle de la France, 1,2.
Bon alors, question, comment en est-on arrivé là?
On va commencer par prendre le point de vue des chavistes. Comme d'habitude, il crie au complot. Dès son avènement en 1999, Hugo Chavez n'avait pas été aidé par ses amis. Il a rencontré l'hostilité de ses voisins, de la Colombie, des États-Unis, même si son modèle a été plus ou moins copié en Équateur, en Bolivie, voire en Argentine. Et aujourd'hui, son successeur Maduro estime que la situation est le fruit d'une guerre économique menée par la droite pour faire chuter le gouvernement. Les pillages même seraient organisés par la droite.
Et selon vous, la réalité serait moins complotiste?
Sur le fond, le Venezuela est quasi seul responsable de son malheur. Il a tout simplement adopté un programme économique absurde qui n'avait d'ailleurs rien inventé. Nationalisation, contrôle de la grande distribution, contrôle des prix, contrôle des changes. Tout cela a pu faire illusion à cause du roi pétrole, qui représente 60% des rentrées fiscales de l'État. C'est 30% au Mexique, par exemple, pour comparaison, qui est un État très pétrolier. Eh bien, ce pétrole à 100 dollars, il a permis de financer une politique ruineuse et son effondrement conduit le Venezuela à avoir un déficit qui devrait atteindre 25% du PIB en 2016. La récession devrait atteindre 8% cette année. L'inflation qui avait atteint l'an dernier 180% devrait atteindre 700% selon le FMI en 2016. Des prix multiplié par 7, Michael, ça ne peut pas durer. Et l'instabilité au relent de guerre civile qui se répand en Amérique latine non plus.
Arnaud Le Parmentier, merci. Dans une vingtaine de minutes, le téléphone sonne en forme de question. Quelle porte de sortie dans le conflit sur la loi travail? Qui doit et qui va céder en premier? Le gouvernement ou la CGT-FO? Et comment sortir la tête haute? On pose ces questions ce soir, on attend toutes les vôtres. Dès maintenant, au 01 45 24 7000 et dans une poignée de secondes, le journal de 19h.